dossier que nous ouvrons aujourd'hui, chers amis, est le plus extraordinaire depuis le début de cette émission. Et chose curieuse...
La scène du crime n'est pas entourée d'un cordon de policiers.
Des tombes profanées, des morts qu'on déterre et qu'on installe dans des maisons témoins.
Vous devez aimer ce genre de baraque, moi.
Eh bien, bienvenue chez nous. Ce soir, dans le rendez-vous en direct sur France Culture, il sera question de télévision, de séries policières, de jeux, de maisons témoins, de téléachats, de mystères et même de prompteurs. Avec Pierre Belmar pour 50 ans de télévision, un livre d'entretien avec les figures emblématiques de la télé. Retour sur 60 ans de vie médiatique avec cet acteur d'Europe 1 et de TF1. Benoît Lagan.
Eh bien, je vous raconte, Laurent, tout commence en 1954 pour Pierre Belmar, une histoire extraordinaire de la télévision entre contes, faits divers, jeux télévisés et même téléachats. Retour sur le parcours d'un pionnier.
À 19h30, la chronique revue et corrigée de Thomas Clerc. Ce soir, à son programme, ce sera la revue Historia. Et puis 19h35, plateau série télé avec Hervé Admar et Marc Herpoux qui co-signent Les Témoins, la nouvelle série policière de France 2, conçue comme un thriller mystérieux et travaillée par la psychanalyse des contes de fées, Benoît Lagan.
Nouvelle série pour le duo de créateurs de Pigalle la nuit, excellent polar côtier géographique ou comment sublimer le Tréport, une nouvelle occasion de démontrer qu'ils n'ont pas oublié leur élégante signature.
Sans oublier la session chanson française, ce sera Bastien Lallemand en live dans le studio.
Et on sera à domicile ce soir entre Maison Haute et Scène de Crime avec Bastien Lallemand. Il nous interprétera Ronde de nuit en direct en fin d'émission.
Mais tout d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez que l'on ouvre sur le son du jour. Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour, il n'était pas très facile à comprendre.
Non, puisque c'est du japonais, c'est la bande-annonce, donc en version originale, du film Tatsumi, présenté à Cannes en 2011, réalisé par le singapourien Eric Koh. Il raconte toute la vie et l'art du dessinateur de manga Yoshihiro
Tatsumi.
Tatsumi, voilà, j'ai toujours du mal, qui est considéré comme l'un des plus grands maîtres du manga. Il vient de s'éteindre à 79 ans. Il a débuté dans les années 50, très jeune, il a publié son premier récit à 17 ans seulement. Et très vite, il s'est distingué par son style extrêmement adulte par rapport aux mangas traditionnels d'alors. Il invente et développe le genre Gekika, courant du manga plus orienté vers les grands récits dramatiques. Il considérait, comme il expliquait, que 70% du travail, c'était l'écriture, que les 30% qui restaient, c'était que le plaisir de dessiner. Il a publié des centaines de récits dans les revues comme Kage et Machi. Et il a travaillé pendant 10 ans à son autobiographie en dessin, Une vie dans les marges, un pavé de 800 pages unique dans l'histoire du manga.
Et l'on passe tout de suite au dossier du jour consacré à Afrostream VOD, MyTF1 VOD, l'une des plateformes de vidéos à la demande en ligne des plus importantes en France, vient d'enrichir son offre et propose désormais des contenus spécifiquement afro. Pour ce faire, elle s'est associée avec une jeune start-up qui veut révolutionner la fiction française, Afrostream.
Oui, puisque alors maintenant, quand vous allez sur MyTF1 VOD, hein, vous avez ce qu'on appelle un corner, donc parmi les catégories, et dans ce petit corner qui s'appelle Afrostream VOD, vous retrouvez des films français, par exemple, Bande de filles, consacré à des jeunes filles de banlieue qui sont noires ou américains, la couleur des sentiments, vous savez, sur le combat des droits civiques, mais aussi des films et bientôt des séries impossibles à voir en France, africains et aussi américains. Pour cela, TF1 a collaboré avec Afrostream, qui est donc une start-up créée par le très jeune et très entreprenant Tongye Bakang. Il est venu du théâtre, il a contribué notamment à l'émergence des talents du stand-up en France, puisqu'il a créé ce qui s'appelait à l'époque le Comic Street Club, qui est devenu depuis le Jamel Comedy Club. Afrostream, c'est sa nouvelle création, et elle lui est venue d'un constat assez simple, écoutez-le.
L'idée c'est que dans les médias, je n'avais pas retrouvé du contenu afro. C'était très difficile d'accéder à ce type de film. Moi qui suis un cinéphile et un sérivore, des films d'un réalisateur très connu aux États-Unis, de Tyler Perry, qui est un producteur de films et à la fois de séries. Les productions de chaînes comme BET aux États-Unis, mais aussi les films et les séries ghanéennes, nigériennes, qui sont des grands succès à l'échelle soit du continent africain ou du continent américain, mais que bizarrement on trouve difficilement en France. Et face à ce manque d'accès au contenu, et avec l'avènement d'Internet et de la vidéo à la demande, je trouvais qu'il y avait un besoin auquel je pouvais répondre à travers une start-up.
AfroStream a donc négocié des droits avec des producteurs américains, mais aussi africains, et TF1 a été séduit.
Oui, alors on pourrait s'étonner de ce choix, de s'associer à cette start-up pour TF1, mais TF1, il faut le dire, cherche à développer et fidéliser les clients de son service de VOD. Alors la VOD, je rappelle tout simplement, c'est comme un vidéoclub, hein, vous louez un film juste pour une fois. Alors est-ce que le but, c'est de cibler une communauté afro en France ? Réponse avec Pierre-Olivier, directeur marketing de MyTF1 VOD.
Vous savez que la VOD, c'est un marché dans lequel il n'y a pas d'exclusivité. Les plateformes proposent peu ou prou la même offre. Les grands films et les films qui sortent en salle, en tout cas, on les trouve à peu près partout. Effectivement, notre idée, c'est d'aller plus loin. Et nous, on a l'intuition qu'il y a peut-être, quand même, sur le cinéma afro, un cinéma qui n'est pas visible et pour lequel, pourtant, il y a des gens qui sont en recherche. C'est plutôt un cinéma qui a des traits communs culturels et qui séduise à la fois des gens qui sont des fans parce que ça leur parle culturellement directement, donc on pourrait dire que ce sont des descendants de culture afro, mais notre volonté à nous, c'est pas du tout de toucher une cible communautaire qu'encore une fois on ne sait pas et qu'on ne veut pas qualifier, c'est plus de proposer des films qui s'adressent à la fois à ces gens-là, mais aussi aux gens qui viennent chez nous, qui on va dire, tiens, ce soir, si vous passiez à autre chose.
Mais le fondateur d'AfroStream ne s'arrête pas là, il veut même créer un Netflix afro.
Oui, alors il faut quand même le dire, Tondje Bakang n'est pas le seul, n'est pas le premier à se lancer dans ce type d'affaires. Il y avait déjà eu des Nigériens qui voulaient promouvoir Nollywood, hein, qui est l'industrie cinématographique nigérienne qui est très importante. Et eux, ils ont créé leur plateforme en Grande-Bretagne et aux États-Unis pour diffuser ces films et ces séries qui s'appellent Iroko TV. En quelques années, elle a levé 21 millions de dollars. Elle revendique aujourd'hui plus d'un million d'abonnés aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Tondje Bakang, lui aussi, voit très grand, mais sur le marché francophone.
On va ouvrir la porte aux cinéastes qui font des films d'auteur, aux producteurs indépendants. Et l'offre va s'étoffer de mois en mois. La première étape avec MyTF1 VOD est ce qu'on appelle de la vidéo transactionnelle. L'ambition d'AfroStream dans un second temps est de passer à la vidéo à la demande par abonnement et ce service arrive durant l'été. On commence à fidéliser une audience autour du contenu préexistant et la volonté c'est de pouvoir produire et coproduire du contenu original, des séries en France, en Europe, en Afrique, aux États-Unis et également avec des partenaires des films.
Voilà, le but à terme, c'est une vraie ouverture donc, pour le public, mais aussi, il faut le rappeler quand même, pour les auteurs de toute cette production, en particulier les auteurs africains, puisque pour eux, ça correspond soit à une distribution plus grande de leurs films, voire à une distribution tout court, puisque pour la plupart, leurs œuvres circulaient en fait déjà, mais de manière totalement inégale sur Internet.
Eh bien, on passe tout de suite au bref, Zoé.
Et l'on ouvre avec la disparition de Philippe Thiry, grand artisan de la décentralisation, homme de théâtre. Il a accompagné Jacques Fabry et sa troupe pendant 10 ans. Il a ensuite pris la tête du Centre National Dramatique d'Aix-en-Provence. Et à partir de 65, il devient donc l'un des promoteurs de la décentralisation voulu par André Malraux. Il a créé notamment la Maison de la Culture d'Amiens. Il est aussi le créateur de l'Office National de Diffusion Artistique, qui a beaucoup innové, relancé la décentralisation dans les années 80.
Deux femmes nommées à la tête du Carreau du Temple à Paris.
Il s'agit de Sandrina Martins, qui a travaillé notamment comme commissaire sur Marseille 2013, capitale de la culture, et de Lucie Marinier, secrétaire générale du musée d'art moderne de la ville de Paris. Elles ont défendu toutes les deux un projet en binôme pour cette halle qui a été rénovée, qui est entièrement dédiée à la culture. Elles prônent une plus grande ouverture sur les habitants du quartier.
Et la dernière.
C'est une histoire d'œuvres d'art maltraitées, de chalumeaux, d'artistes en colère. Et oui, le Languedoc-Roussillon est accusé d'avoir fait beaucoup de mal, d'avoir maltraité une très gentille pourtant sculpture de l'artiste italien italo-argentin Francesco Marino di Teane, qui est mort en 2012. Il s'agit de l'hommage à Laurent le Magnifique, qui était une grande sculpture architecturale de 17 mètres de haut, installée dans la cour du lycée Jean Mermoz de Montpellier. Elle a été réalisée en 72 et c'est vraiment l'un des symboles de l'obligation de décoration des constructions publiques, vous le savez, qui prévoit que 1% des sommes consacrées par l'État à une construction d'école financent la réalisation d'une œuvre d'art. Alors voilà, ce qui se passe là-dedans, c'est que les lycéens, vraisemblablement, et le lycée, n'ont pas vraiment aimé, ou en tout cas n'ont pas soigné cette petite œuvre. On a mis autour d'elle des espèces de parpaings, on l'a complètement laissée rouiller sans jamais la rénover. Depuis bien des années, il y a des graffitis et des tags, c'est un peu devenu le lieu pour le faire dans la cour du lycée. Pire, la sculpture a été complètement amputée. c'est-à-dire qu'on l'a coupé à différents endroits. C'est un geste au chalumeau, voilà, un geste intervenu en 2009. Et finalement, le fils de l'artiste s'en est rendu compte puisqu'il a une amie qui a pris en photo cette œuvre et c'est là qu'elle a réalisé qu'elle avait été chalumée, voilà. Alors le lycée se défend en disant, une défense étrange, que la sculpture était tellement abîmée. Alors toute la question, c'est pourquoi qu'elle menaçait de tuer les lycéens en se disloquant, que c'est pour ça donc qu'elle a chalumoté cette œuvre. Et du coup, le fils de l'artiste a décidé d'ouvrir une action en justice contre le Languedoc-Roussillon.
Merci Zoé, on se retrouve demain pour la suite de ce journal de la culture.
Avec plaisir, et n'oubliez pas que vous pouvez réécouter et podcaster ce journal de la culture sur le site de France Culture. Le rendez-vous.
Une véritable fusillade retentit, résonnant à l'infini sur les petites maisons de briques rouges éparpillées dans la forêt.
Plateau, racontez-moi une histoire. Avec vous, Pierre Bellemare, concepteur, producteur, animateur phare de la télévision, figure incontournable de l'histoire de TF1 qui a fêté ses 40 ans, mais aussi une voix inoubliable d'Europe 1 qui a fêté ses 60 ans. Et vous êtes l'une des 14 personnalités à raconter votre histoire personnelle et votre approche de la télévision dans un livre, 50 ans de télévision, coédité par Lina et Le Passeur. Vous, d'ailleurs, ce serait plutôt 60 ans de télévision publique, puisque vous entrez pour la première fois sur RTF, c'était la radio-télédiffusion française en 54. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous pousse à cette époque vers ce média, ne sachant pas véritablement ce qu'il allait devenir, Pierre Bellemare ?
Oui, je vais vous le dire. En 1947, pour remonter un petit peu encore,
ouais.
1947, je rate mon bac, je perds ma mère et je rencontre ma première femme. Vous voyez, c'est une année importante. Et à partir de ce moment-là, je décide de fonder une famille, d'avoir des enfants et donc il me faut un métier.
Mais très jeune alors ?
Je suis très jeune, j'ai 17 ans. Et j'ai un beau-frère qui s'appelle Pierre Yégel, qui est un homme de radio, qui est un musicologue. Et Pierre va me prendre sous son aile, se crée une petite maison de production radiophonique pour Radio Luxembourg, qui fait essentiellement des émissions de 5 et 10 minutes. Et je vais entrer comme grouillot, disons-le carrément, dans cette petite maison. Je colle les étiquettes, je rends service, j'achète les sandwichs. Enfin bref, je fais ce qu'on doit faire au démarrage. Et petit à petit, grâce à cela, je vais apprendre d'abord un métier de technicien. Je vais petit à petit me progresser dans la prise de son, dirons-nous. Puis ensuite, je passerai à la réalisation et ensuite à l'animation. Voilà, voilà comment j'ai démarré dans ce métier. Un peu par hasard, faut bien le dire.
Alors, on va revenir sur ce parcours, mais juste une question. Parce que vous faites partie de ces pionniers qui, très tôt, sont allés aux États-Unis pour voir comment la télévision américaine fonctionnait. Et c'est vous qui, en 57, avez importé le prompteur en France. Comment cette invention a été perçue à l'époque, quand vous l'avez ramenée ?
Ah, très bien, tout de suite. Elle a été surtout perçue par les journalistes, bien sûr. Puisque c'était eux qui avaient le plus besoin du prompteur. Mais j'ai moi-même été très étonné. J'y allais pour vendre une émission, parce que nous avions vendu aux Américains, ce qui est quand même très rare, on avait vendu La Tête et les Jambes.
Le jeu, oui.
Et c'est une toute petite aventure, mais elle est amusante à raconter. On arrive là-bas, donc on est très bien reçu. On trouve un producteur américain qui coproduit avec nous donc, la série américaine. On fait un pilote avec un joueur de golf et un candidat. Enfin bref, tout ça se passe très bien. Et on se donne rendez-vous à la rentrée. C'est sur la NBC, c'est en prime time. Enfin, c'est vraiment la première fois qu'une émission française est adoptée à ce point-là par les Américains. Et juste à la rentrée de septembre, le scandale des jeux américains arrive. C'est-à-dire qu'on apprend que les producteurs américains donnaient les réponses des questions à leurs candidats. Non pas pour toucher l'argent, mais pour que l'audience continue. Parce qu'évidemment, on fait de l'audience, plus un candidat est brillant, plus on fait de l'audience.
Ce qui a été raconté dans le film de Robert Redford, Quiz Show.
Absolument. Et donc, c'est la catastrophe, car tous les jeux de questions, hop, sont anéantis. Or, La Tête et les Jambes, c'est un jeu de questions. Il y a du sport, d'accord, mais il y a des questions.
Ouais.
Donc, on a fait 13 semaines, puisque c'est un contrat de base. Si vous réussissez là-bas 13 semaines, après ça, vous continuez. Mais on a fait 13 semaines et on s'est arrêté là parce qu'il y a eu ce scandale. Donc, c'est une belle aventure qui démarre merveilleusement et qui échoue malheureusement grâce à ce scandale des jeux aux États-Unis.
Pierre Bellemare, quand on vous écoute, on reconnaît immédiatement cette voix. Vous êtes pour beaucoup un conteur de la radio, puis de la télévision. Vous n'avez suivi ni école de journalisme, ni d'école de théâtre. Comment vous avez pensé et travaillé votre façon de raconter les histoires et ce débit que vous avez et qui est immédiatement identifiable ?
Alors, je ne l'ai pas travaillé. C'est naturel. Bon, je veux dire, c'est l'instinct. Bon, voilà, c'est l'instinct. Mais le professeur est quand même Pierre Yégel. Bon. Et c'est l'homme qui vraiment m'a montré la route, en quelque sorte, pour arriver à capter l'attention des auditeurs. Bon. Il avait lui-même une voix tout à fait extraordinaire et un débit tout à fait particulier.
Qu'on va entendre dans quelques instants, en effet, oui.
Oui, parce que je vous ai demandé, enfin, j'ai signalé que la plus grande émotion que j'avais eue à un moment donné dans ma vie et sur le plan sonore, c'est lorsque mon beau-frère, à l'abbaye de Royaumont, a enregistré donc un extrait de La Passion de Charles Péguy. Et ça a été une révélation pour moi. Et à la fois sur le plan de ce qu'on pouvait tirer d'une voix et de ce qu'on pouvait tirer d'une interprétation radiophonique, et d'autre part, Péguy. Parce qu'on parle de Péguy, c'est gentil, mais peu de gens le lisent. Si vous me trouvez des gens qui ont lu les cahiers de la quinzaine, par exemple, vous les montrerez. Bon. Mais c'est très rare. Et pour autant, c'est un auteur fabuleux et notamment un auteur extraordinairement radiophonique.
Mais on écoute tout de suite votre beau-frère, donc Pierre Hégiel.
Le reniement de pierre et la lance romaine, les crachats, les affronts, la couronne d'épines, le roseau flagellant, le sceptre de roseau, les clameurs de la foule et les bourreaux romains, le soufflet, car ce fut la première fois qu'il fut souffleté. Il n'avait pas crié sous la lance romaine, il n'avait pas crié sous le baiser parjure, il n'avait pas crié sous l'ouragan d'injures, il n'avait pas crié sous les bourreaux romains, alors pourquoi cria-t-il? Devant quoi cria-t-il? Tristis, tristis usquiam mortem.
Pierre Bellemare, c'est donc Pierre Hégiel qui vous a plus ou moins coaché pour affirmer votre voix.
Je précise que là, c'est Simoneau qui est à l'orgue et qui improvise. Je précise, c'est une improvisation totale. Bon, derrière lui, une improvisation. Ils sont rentrés de Royaumont, si vous voulez, dans une sorte d'état second. Et on était avec Jacques-Antoine, on était là tous les deux. Et il a mis la maquette, en quelque sorte, le disque maquette sur son phonographe. À l'époque, on écoutait sur des phonographes. ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Et on a eu une révélation totale avec Jacques-Antoine, c'est-à-dire une révélation d'une part de l'importance de la voix dans un récit de ce genre, de l'importance du texte, bon, et de la construction de ce texte, avec notamment ce jeu de répétition. Vous avez remarqué, hein, Péguy utilise sans arrêt la répétition ou la conjugaison. Il travaillait dans la charpente, il travaillait dans la charpenterie. De son métier, il était ouvrier charpentier. Vous voyez, donc, on a fait le tour d'un très beau mot, charpente, charpenterie, charpentier, hein, voilà. Et c'est sans arrêt comme ça. Donc, finalement, c'est un homme de radio, Péguy. Il ne sait pas, parce que, bien sûr, la radio n'existe pas, mais pour autant, s'il avait vécu, s'il n'avait pas mort à la bataille de la Marne en 14, je pense que ça aurait été une vedette de la radio d'entre-deux-guerres.
Benoît Lagan.
Hervé Admar, Marc Herpoux, que représente pour vous Pierre Bellemare? Une émission en particulier qui a pu vous marquer?
Réalisateur et scénariste, hein, tous les deux.
Oui, alors, on fait partie de cette génération de scénaristes et de réalisateurs qui sont nés avec la télévision. Et moi, j'ai été élevé par mes parents, bien sûr, mais j'ai aussi été élevé par la télévision. Pourquoi ne pas l'avouer? Et notamment par ces histoires extraordinaires qu'on me racontait. Alors, pas seulement Pierre Bellemare, mais moi, toutes les histoires que j'ai eu envie d'entendre et que j'ai écoutées enfant et adolescent, elles sont venues du cinéma et de la littérature, mais aussi de la télévision. Et évidemment, la voix de Pierre Bellemare, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est plein de souvenirs et ouais, c'est une sacrée référence. Je ne sais pas pour toi, Marc.
Marc Herpoux. Bah oui, bien sûr. Bah oui, je me souviens... Je me souviens très très bien de cette voix. Je me souviens même d'une histoire que j'avais. C'était dans le cadre de l'école où on demandait des fois de faire des rédactions. On demandait racontez-nous vos vacances ou des choses horribles à raconter.
T'avais raconté tes vacances, voilà, avec Pierre Bellemare.
Exactement. Et alors du coup,
aviez pompé une histoire de Pierre Bellemare.
Exactement, pour ne pas avoir à raconter. On avait la rédaction libre, on va dire. Et du coup, j'avais raconté une histoire que j'avais entendue la veille. Voilà, pour une petite anecdote, oui, on a été bercé avec la voix de Pierre Bellemare.
Benoît.
Pierre Bellemare, l'entretien qui vous concerne dans ce livre s'ouvre sur les patrons de la télévision des débuts, et en particulier Jean Darcy. Vous parlez d'une personnalité qui vous a marqué profondément, d'un véritable fondateur. Que doit la télévision française à Jean Darcy?
Ah ben, je pense que c'est lui qui a réellement construit la télévision d'origine et qui en a fait la qualité qu'elle avait. Bon. Il a été... c'était un militaire, pour ne pas l'oublier, hein, au départ. Mmh. C'est un militaire. Bon. Et cet homme a su tout de suite s'entourer d'une équipe de réalisateurs de toute tendance, hein, politique, j'entends, bon, de toute tendance, et de très grand talent. Il a su très bien les recruter et il dirigeait la télévision avec cette équipe de réalisateurs, en fait. Bon. C'était une sorte de communauté de direction, mais avec une autorité extraordinaire et une innovation dans le choix des idées qui était absolument extraordinaire chez cet homme qui, au départ, n'était pas fait pour ça du tout. Donc, il marquait tout le monde, il impressionnait tout le monde, et il était le doigt sur le bouton. C'est-à-dire que on a du mal à expliquer ça aujourd'hui, mais il écoutait la télé sans arrêt, c'est-à-dire ça ne diffusait pas souvent. Ça diffusait à midi un petit peu, puis de 6h du soir environ jusqu'à 11h du soir, c'était tout, il n'y avait pas plus. Bon. Mais cela dit, il était avec son bouton, et si jamais ça ne lui plaisait pas, on coupait. On arrêtait, stop, c'est fini. Vous voyez, c'était c'est tout à fait sidérant, parce que c'était aussi un militaire. Non mais, ça avait une ambiance. Il avait formé donc une équipe autour de lui, bon. Et tout le monde était totalement passionné. Et on a fait des choses. Moi, j'ai le souvenir, si vous me permettez,
oui, c'est une chose qui est magnifique. Pierre Bellemare.
Claude Barma, qui a été un de ces grands réalisateurs, justement, drivé par Jean Darcy, décide pour la Noël de faire Les Trois Mousquetaires à la télévision. Pour cela, il va occuper trois studios. Et les comédiens couraient d'un studio à l'autre pour jouer les scènes. C'est absolument insensé. Et pour leur permettre d'avoir le temps d'arriver d'un studio à l'autre, ils avaient tourné uniquement Les Chevauchés. Vous voyez. Alors Les Chevauchés étaient en 16 minutes. Les mousquetaires partaient, je ne sais pas où. Alors, hop, on avait un petit coup de chevauché. On repartait dans les studios, hop, une chevauchée. Bon. 2h30 de direct.
Waouh.
Avec,
ouais, c'est énorme.
Par caméra, 300 à 400 places différentes. Par caméra. Tout ça avec des scripts qui ont tout ça dans la tête et qui dirigent leur caméraman. L'émission se termine, pas un faux plan, pas une perche dans le champ, pas une caméra dans le champ, pas un mot oublié par les comédiens, rien, tout, la merveille. Et j'ai assisté à ça, c'était absolument merveilleux. Les gens se précipitaient dans les bras les uns des autres, dans une joie indescriptible, parce qu'ils venaient de réussir une émission exceptionnelle à la télévision. Et ça, si vous voulez, c'est ce qui manque aujourd'hui à la télévision, parce que quand vous faites des séries en batterie de 7 émissions dans la journée, les gens ne se jettent pas dans les bras les uns des autres. Ils disent, heureusement, c'est fini, ils sont très fatigués, ils s'en vont. Non, mais je veux dire, il y a une différence énorme entre des gens qui découvraient un métier et qui les émerveillaient, parce qu'on était émerveillés par ce métier, allez, au départ. Il était, voilà.
Parmi les patrons.
Et on en parle aujourd'hui, où je le dis, mais il y a eu quelques temps, bien 15 ans que ce film a été fait, Le Prix du Danger,
ouais.
Vous vous rappelez de ce film. Aujourd'hui, Le Prix du Danger, il a été dans la réalité, hélas. Et si 10 personnes sont mortes, c'est également parce qu'il y a cette, bon Dieu, pardonnez-moi, je suis vulgaire, de télé-réalité qui envahit nos antennes et qui est vraiment la pire des choses qu'on ait pu inventer.
Alors, parmi les patrons, vous évoquez aussi Marcel Julien et Pierre Desgroupes, créateurs de la deuxième chaîne, Antenne 2 à l'époque. La télévision dont je vous cite, nous avions rêvé en 68. En quoi Antenne 2 était à l'époque le prolongement direct de mai 68, Pierre Bellemare ?
Ah bien, alors, en mai 68, dans cette maison où vous retrouve aujourd'hui, nous étions en réunion syndicale quasiment du matin au soir. Hein, bon. On se relayait, en quelque sorte, hein, sans arrêt. Bon, alors, on allait dormir 3 heures, hop, on reparle. Ben. Et on a imaginé un style de télévision, une forme de programme de télévision. Bien. Et on espérait pouvoir un jour le mettre en exécution. Et dans ce syndicat, il y avait Desgroupes et Dumayet, qui sont parmi les gens, je dois dire, de cette équipe, les plus intelligents que j'ai eu la chance de rencontrer. Et quand Pierre a été nommé à la deuxième chaîne, quelques temps plus tard, la question n'est pas là, mais il s'est remémoré, en quelque sorte, ce qu'on avait imaginé pendant ces journées particulières, et il les a, en partie, appliquées à son programme. Et je le rappelle, c'est la seule fois, je crois pas dire de bêtises, mais dans les enquêtes, je crois que c'est la seule fois où la deuxième chaîne est passée devant la première.
Vous Benoît. Avez longtemps œuvré sur les jeux télévisés, vous évoquiez La Tête et les Jambes tout à l'heure, mais dans le livre, vous revenez sur Pièce à conviction, créée il y a 40 ans, en 75. En quoi ce jeu résumerait votre marque de fabrique en termes de dramaturgie, du rapport avec les candidats et les téléspectateurs, et quant à la place même de l'animateur ? Pierre Bellemare.
Oui, je vois. La Pièce à conviction, c'était un système assez particulier. Nous avions un candidat, bien sûr, qui répondait à des questions, mais ces questions lui étaient proposées. C'est-à-dire que nous avions une question qui était divisée en 5 réponses. On pouvait donc donner 5 réponses. Et il devait choisir soit parmi ses réponses qu'il donnait, bien entendu, celles dont il était sûr. Si son jugement par rapport à ce qu'il devait donner comme réponse était exact, c'était évidemment très favorable pour lui et il marquait d'autant plus de points. Mais tout ceci était très difficile parce que tout ça a été fait dans un temps extrêmement limité et donc il y avait à la fois, si vous voulez, dans cette émission, à la fois le suspense du questionnaire, la tension du temps qui s'écoule, il faut absolument qu'il reste dans son temps parce que sinon il va perdre. Donc il y avait des quantités d'éléments de suspense qui se succédaient les uns aux autres. Et ce qui fait un bon jeu, c'est malgré tout un jeu qui est très fort dans ce domaine du suspense. Et ça a été sans doute l'un des jeux les plus forts pour moi à ce moment-là.
À quel moment, Pierre Bellemare, vous ressentez le besoin de devenir vous-même producteur de vos propres programmes ?
Ben j'en étais, si vous voulez, on s'appelait producteur, hein. On n'était pas du tout producteur sur le plan commercial.
Oui.
Mais quand on se rencontrait dans les couloirs de la télévision, les uns étaient les réalisateurs, les autres étaient les producteurs. On s'appelait comme ça. Donc celui qui concevait l'émission, qui la mettait sur le plateau, qui la répétait et qui l'animait, était un producteur.
C'était exactement comme ça.
C'était un artisan producteur, hein, totalement. Il ne touchait pas un sou. Parce que ce qui est formidable dans cette période, c'est qu'on gagne notre vie à la radio et pas du tout à la télévision. Je précise ça parce que c'est important de le savoir. On gagne très bien notre vie à Radio Luxembourg, puisqu'il n'y avait encore que Radio Luxembourg à ce moment-là. Donc, on gagne très, très, très bien notre vie. Et puis, par contre, là, la Radio France, rien. On négligeait un peu d'aller à la caisse ici, quand il y a eu la caisse à la maison de la radio, parce que Louis Cochet était tellement ridicule. Pour la télévision, c'est bon. Mais, c'était la publicité, en quelque sorte. C'était notre image. Notre image, c'était la télévision. Devant très peu de postes, mais devant chaque poste, 20 à 30 personnes. Chaque poste avait 20 à 30 spectateurs. Donc, un vrai public. Et il nous influençait. Ils nous écrivaient. Il n'y avait pas les enquêtes, bien entendu, pas encore. Les enquêtes, c'était eux. Ils nous disaient, ça, on a aimé, ça, on n'a pas aimé. Et il y avait une relation sympathique, notamment avec le Nord. C'était le Nord qui a été le premier à très bien installer en télévision. Et donc, on avait des relations avec les téléspectateurs du Nord, que j'ai toujours gardé d'ailleurs, et qui étaient formidables. Il y avait une sensibilité entre nous. Puis vous savez, comment expliquer une chose que vous découvrez au fur et à mesure que vous la faites. Vous voyez, c'est très difficile d'imaginer aujourd'hui ça, parce qu'on est complètement rodé, on a des tics maintenant, enfin bref, tout ça est complètement passé, bien sûr. Là, on découvrait quelque chose, les téléspectateurs le découvraient en même temps que nous, et on se mettait en relation avec eux pour que tout le monde soit satisfait de ce que nous faisions. C'était très social.
Pour les retrouver, tapez 3615, code TF1, et gagner un miniscope horizontal à caille.
Mesdames, permettez-moi de vous souhaiter un très bon week-end.
Vous merci, de même, Pierre. Au revoir,
au revoir
et à lundi.
À lundi.
Le rendez-vous, la chronique.
Tout de suite, la chronique revue et corrigée par Thomas Clair. À votre programme, vous avez mis...
Historia. Eh oui, une revue de vulgarisation bien connue, hein, consacrée à l'histoire avec un grand H. Une revue vénérable d'ailleurs, fondée en 1909. Mensuel numéro 819. Mais alors si je divise 819 par 12, ça donne 68, une année historique. C'est-à-dire que la revue aurait dû voir le jour en 1947. Hein, les origines d'Historia sont donc un peu obscures. On sait juste qu'elle n'a pas paru entre 1937 et 1945, ce qui dans une certaine mesure a son honneur. Bref, on se perd un peu dans la nuit des dates, malgré la devise qui orne le titre, le passé éclaire le présent. On est sûr d'une chose, c'est qu'Historia vaut 5,70 €. Curieusement, le kiosquier du boulevard Sébastopol, bataille en 1854, siège en 1942, auquel j'ai acheté Historia, m'a donné en prime le Figaro magazine.
C'est pas vrai.
Et oui, que je n'ai pas encore chroniqué pourtant. Est-ce parce que j'ai pris Historia qu'il m'a fait un pack avec ce qu'on appelait naguère encore le Figmag, auquel cas il y aurait une corrélation évidente entre les deux canards, ou est-ce parce que je portais ce jour-là, hier, une chemise à rayures ? Allez savoir. Ce vendeur était un psychologue à sa manière. Lorsque j'étais enfant, Historia n'avait pas le même format qu'aujourd'hui, un banal 20-27. Il était rectangulaire vertical, mais il y avait souvent le maréchal Pétain en couverture. Ce qui est toujours le cas aujourd'hui, dans ce numéro de mars, Dieu de la guerre. Mais le maréchal Duconeau, comme disait Robert Desnos, n'est plus en contre-plongée menaçante. Il est une vignette accompagnée de gens plus grandioses, mais tout aussi lourds d'un point de vue mythique. De Napoléon à Jeanne d'Arc, de Charlie de Gaulle à Mazarin, et jusqu'à un chauve moustachu que j'ai eu du mal à identifier.
Et c'est qui ?
Je n'arrive pas à m'intéresser à Georges Clémenceau. Mais il ressemble en fait, c'est un croisement entre Gérard Jugnot et Claude Maluret, maire de Vichy. mais un Maluret des années 70. Le thème de ce numéro, c'est l'homme providentiel, un marronnier, ultra-marronnier, et nous ne nous y attarderons donc pas. Il reste assez difficile de trouver quelque originalité à Historia. Il faut y chercher dans les recoins du magazine de quoi historier notre chronique. Alors il est difficile d'éviter l'éditorial, signé Pierre Baron, qui revient sur les attentats historiques de janvier, en fustigeant le 8 mai, c'est-à-dire la posture rhétorique qui consisterait à trouver quelque excuse aux terroristes à cause des outrances de Charlie Hebdo. C'est un point de vue tout à l'opposé de celui d'un Will Self que nous recevions il n'y a pas si longtemps. Le point de vue d'Historia est en revanche, c'est curieux, le même que celui de Mouvement que nous commentions la semaine dernière.
La revue, en effet, interdisciplinaire. Et oui. Indisciplinaire.
Indisciplinaire, oui. Ah, il serait peut-être intéressant de comparer sur une même tranche historique, non pas les revues, mais leurs éditoriaux. On se demande d'ailleurs quels sont les magazines qui ont échappé à la dite problématique. Il doit bien y avoir des journaux collaborationnistes qui ne parlent pas de tout ça, mais on ne sait pas lesquels. Bon. Ce qui ressort d'Historia est sa volonté de passer pour un journal sérieux. Les contributeurs, au nombre de 8, sont présents et présentés en tête de gondole, avec leurs photos et leurs titres, experts de ceci, spécialistes de cela. À ce propos, je voudrais exprimer mon désaccord avec cette manie éditoriale pour les journaux de publier les portraits ou photos des contributeurs.
Ah, j'aime bien, moi.
Ah, un timbre poste n'a jamais dit la vérité d'un visage. Le pire, j'en sais quelque chose, étant la caricature avec laquelle on graffitie les binettes de ces gens. L'editing, en anglais, ça veut dire quoi? Ça veut dire couper, châtrer. Oui. Eh oui. Revenons à Historia. Les dossiers sont parfois pas mauvais, tels celui des forteresses maritimes érigées par les Anglais pendant la Deuxième Guerre mondiale, des plateformes quadripodes qui servent de sentinelles, aujourd'hui désaffectées, telles des installations modernistes perdues en pleine mer. C'est assez beau. Les meilleures rubriques sont celles qui, sur une page, font l'historique qui d'un plat, la tarte bourde à loup, d'un animal, d'une expression, d'un illustre inconnu. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est l'historique d'un morceau de musique. L'air du temps, page 72, archive la chanson bien connue de Michel Berger et Luc Plamondon, le blues du businessman. Ouais. C'est une bonne idée que de faire l'histoire d'un tube. Ses apparitions au cinéma, par exemple, c'est une chanson qui figure dans un film tardif de Lelouch. Malheureusement, il manque les informations complètes, et notamment le nom de l'interprète de cette chanson. Qui est-ce?
Le
blues du businessman.
Ouais, je ne sais pas. Claude...
Oui, vous y êtes presque. Ouais. Claude Dubois.
Exactement.
Oui, Claude ouais. Dubois. Hein. Il faut être précis quand on est historoc. Donc, dans l'ensemble, Historia ronronne pas mal. Entendez ça comme vous l'entendez.
Merci Thomas, on se retrouve mardi prochain.
Merci à vous.
19h20, le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau signature avec vous, Hervé Admar et Marc Herpoux, respectivement réalisateurs et scénaristes de télévision. Vous aviez signé Les Oubliés avec Jacques Gamblin en 2007, puis Pigalle la nuit sur Canal+, en 2009. Signature avec Sandrine Bonner et Samy Bouajila. Et puis mercredi prochain, ce sera le lancement de Les Témoins, une série en 6 épisodes sur France 2, déjà achetée par la télévision britannique. Bravo. Vous y avez mis en place un nouveau duo de flics, Sandra Vinclair, jouée par Marie Dompnier, et Paul Maisonneuve, c'est Thierry Lhermitte. Le pitch de cette série, pour reprendre le jargon du genre, eh bien c'est notre réalisateur qui l'a travaillé dans une bande-annonce qu'il a faite lui-même avec ses petits doigts. On l'écoute.
Des tombes profanées, des morts qu'on déterre et qu'on installe dans des maisons témoins.
Vous devez aimer ce genre de baraque, vous.
À chaque fois, une femme, un homme, une adolescente qui ne se connaissaient pas et qui forment une nouvelle famille. Et au milieu de ces corps, on découvre une photo, la vôtre.
Vous avez une idée de l'identité de ceux qui pourraient vouloir faire ce genre de choses? Reproduire des familles dans des maisons témoins près de la ville où vous avez grandi?
Aucune idée.
Ceux qui font ça sont cachés quelque part dans ton passé. Comment on s'organise?
J'ai pas été clair? Je réponds à toutes vos questions. Je vous accompagne sur le terrain s'il le faut, mais je ne redeviens pas flic.
Mais enfin arrête, tu vois bien qu'il dit pas tout, qu'il nous cache des choses.
C'est à lui que vous pensez depuis le début, c'est ça?
C'est à lui que je pense.
C'est qui ce type?
Un loup parmi les loups.
Personne n'est à l'abri, ni vous, ni votre fils, ni moi! Il ira jusqu'au bout pour se venger.
Des tombes profanées, des morts qu'on déterre et qu'on installe dans des maisons témoins.
Tu diras à Paul que les fantômes sont de retour.
Hervé Admar et Marc Herpoux, on retrouve là votre signature depuis Les Oubliés, c'est-à-dire le thriller mystérieux. Et le point de départ ici, c'est assez étrange parce que ce sont des photographies anglo-saxonnes de Gregory Crutzen, mais aussi du Hollandais Erwin Olaf. Exactement comme Fabrice Gobert pour sa série Les Revenants. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ces photographies?
Gregory Crutzen fait des photos, met en scène des photos dans des maisons. Enfin, il a une série de photos qui se passent dans des maisons. Il va se passer quelque chose ou il vient tout juste de se passer quelque chose. Et c'est cet instant-là très précis où votre destin va changer, où le destin des personnages qu'il met en scène va changer, qui m'a intéressé, qui m'a interpellé quand j'ai regardez ces photos. Et c'est ce qu'on a essayé de reproduire avec Marc en mettant en scène ce principe, ce thriller, cette dramaturgie des cadavres qu'on déterre et qu'on installe dans des maisons témoins. Voilà.
Et Erwin Olaf, qu'est-ce que vous avez trouvé chez lui ?
Bah déjà, pour revenir sur Grégory Knudsen, vous parliez des revenants, il y a quelque chose de morbide, il y a la mort qui est omniprésente. Moi, c'est plutôt Grégory Knudsen, excuse-moi. Erwin Olaf, c'est plutôt
Hervé. Ouais. Erwin Olaf, il y avait une esthétique, une teinte, une atmosphère, des couleurs. Je vais vous donner un tout petit exemple, il adore les voilages. Il met des voilages aux fenêtres. Et moi, je savais que pour les témoins, je voulais des voilages aux fenêtres. Voilà, ça a l'air un peu stupide comme ça, mais c'est la vérité.
Benoît.
Alors souvent chez vous, le merveilleux passe par les figures du conte. Et d'ailleurs, avant tout projet, vous relisez systématiquement la psychanalyse des contes de fées. D'ailleurs, il y avait du Alice au pays des merveilles dans Pigalle la nuit. Ici, puisqu'il est question de parler de la famille idéale fracturée, qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans le livre de Bettelheim ?
Alors non, c'est plutôt le petit chaperon rouge qui nous a inspiré. On a un petit peu à chaque fois un conte. Il y a la figure de l'ogre dans Les Oubliés. Il y a la figure d'Alice au Pays des Merveilles dans Pigalle. Il y avait la figure un peu de Livre de la Jungle dans Signature. Là, c'est la figure du petit chaperon rouge, parce que la figure du petit chaperon rouge, elle colle très bien avec le thriller. Il y a quelque chose de pulsionnel qui attaque. Et il s'agit de se protéger. On se sent faible, on se sent démuni. Et aussi séduit, parce qu'il y a quelque chose de séduisant dans la figure du loup. Et donc, voilà, c'est le conte qui nous a un petit peu porté pendant l'écriture.
Oui, puis les peurs de l'enfance nous intéressent. Le petit chaperon rouge, il doit traverser une forêt, aller chez sa grand-mère, faire face au loup. Voilà, c'est ce que Sandra va traverser dans Les Témoins.
Quel spectateur de séries policières êtes-vous, Pierre Belmar ? Je voyais lever le doigt. Non, peut-être que vous avez vu la série, je crois, d'ailleurs.
Vous connaissez le nom du quartier général d'Hitler pendant la guerre ?
Non.
Le repère du loup.
Non, oh là. Oui, ah bah oui.
Le repère du loup.
Les loups sont rentrés à Paris.
La tanière du loup. Ou la tanière ou le repère du loup.
Vous, quelles sont les séries policières qui vous ont marqué ? Plutôt françaises ou américaines, d'ailleurs, Pierre Belmar ?
J'ai certaines séries françaises, on parlait de Pigalle, tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé. Je suis un grand amateur, je l'avoue, des séries anglaises.
Voilà. Elles sont formidables, vous avez raison.
Magnifiques.
Voilà, ça vraiment, je dois dire que la construction des séries anglaises m'émerveille. Et chaque fois que je peux en trouver une, je reste passionné par ces séries. Voilà, c'est mes préférés, c'est de très loin le travail des Anglais. Voilà.
C'est-à-dire Downton Abbey ou des choses comme ça?
Oui, oui, toutes les bonnes séries anglaises, il y en a beaucoup. Hein, il y en a beaucoup, beaucoup. Même des séries extrêmement populaires. Bon, je pense à cette série qui était beaucoup mieux faite que Colquhaze. La même série, mais qui s'appelle Meurtre, c'est Meurtre en sommeil. Enfin, traduit en français, c'est Meurtre en sommeil. Hein, c'est Colquhaze, la série américaine, sauf que c'est vu par les Anglais. Et ça n'a rien à voir. C'était une remarquable série.
Benoît.
Marc Herpoux, vous expliquez qu'écrire un scénario signifie imaginer le prototype d'un film que va ensuite réaliser ou que réalise avec vous Hervé Admar. Qu'entendez-vous par là, prototype d'un film, un scénario ?
Oui, c'est comme ça que je vois la chose, parce que moi je ne vois pas du tout le scénario comme étant quelque chose de littéraire, comme étant un objet littéraire. C'est pas le but, ça sera pas lu, enfin ça sera lu que par des gens de la technique, des producteurs, des acteurs pour les dialogues, mais de toute façon c'est fait pour être dit, c'est pas fait pour être lu. Même les dialogues. Donc il s'agit de penser un film, et donc c'est là tout le travail en duo, parce que c'est vraiment une co-écriture. Hervé ne fait pas que réaliser, on pense ensemble le projet, et d'avoir très tôt, de partager très tôt ses envies d'image, ses envies de plans, de cinéma, parce que c'est du cinéma pour moi, c'est la même chose, de partager ça, le son, de plonger dans un univers pour ensuite essayer de sentir ce qui va pouvoir faire après sur le plateau. Donc je vois ça comme étant le prototype d'un film, comme étant je me pense comme étant un réalisateur virtuel, quelqu'un qui n'a pas forcément envie de passer ensuite, de supporter tout ce que supporte Hervé avec le réel.
Merci Marc.
Mais voilà, exactement, je me débarrasse de ça, mais c'est comme ça que je perçois la chose.
Hervé Admar, comment vous êtes arrivé à la réalisation d'ailleurs ? En fait, moi, la télévision.
Je suis graphiste de formation, j'étais directeur artistique dans la publicité pendant quelques années. Et Et la première chose qu'on fait avec Marc, quand j'arrive avec une idée de série comme Les Témoins par exemple, et qu'on se met ensemble à la concevoir, je fais une affiche. Première chose, je fais une affiche, un visuel. Je pense au générique tout de suite. Je vais voir dans ma discothèque, parce que ma véritable passion c'est la musique, et donc je fais une présélection de 10 ou 15 albums que je vais écouter en boucle pendant toute l'écriture. Et ensuite, je vais devenir vraiment réalisateur quand on aura tout écrit avec Marc. Comment je suis arrivé à la réalisation de séries ? Moi, je suis né avec les séries. J'adore les séries. Et aujourd'hui, je préfère faire des séries que des films de cinéma. On me propose quelquefois des films de cinéma. J'ai des projets, mais je préfère les séries. Je peux développer des psychologies de personnages sur 6 heures, 8 heures, 10 heures et plus sur plusieurs saisons. Et c'est ce qui me passionne aujourd'hui.
Quelle était l'affiche pour Les Témoins que vous aviez donc composée avant même de tourner ?
Les falaises, le funiculaire qui s'enfonce dans les falaises. Et le mystère des falaises, au fond.
Du Tréport.
Oui.
Benoît.
Alors, comme à Pierre Bellemare, nous avons demandé à vous deux de nous soumettre des idées de sons. Et vous aviez envie d'entendre ceci, on les a mixés. Ça marche, hein. Identification de ces deux sons, Hervé Adma.
C'est New Morricone, enfin, l'harmonica d'Idée une fois dans l'Ouest, c'est Marc, c'est le son de Marc, je crois.
Oui.
Et puis moi, c'est un trompettiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Yon Hassell, voilà, qui m'a fait découvrir plein de choses, tout un courant musical que il y a 20-25 ans que je ne connaissais pas et que j'ai découvert à l'époque, voilà.
Alors pourquoi donc New Morricone de votre côté ?
Ben en fait ça c'est le plaisir de la narration quand j'avais 9 ans parce que c'était en fait il y avait un 45 tours et avec l'image du petit gamin sur la pochette, du petit gamin qui tient sa cruche avec les hommes au long manteau face à lui, j'avais pas vu le film et j'étais sans arrêt en train de me demander qu'est-ce qui allait arriver à ce pauvre gosse et je m'inventais tout un tas d'histoires et ça a été le début pour moi de c'était quelque chose qui m'a marqué, voilà.
Pourquoi vous êtes allé chercher, parce que vous avez vraiment le sens du casting, on l'a vu dans toutes les précédentes séries, pourquoi cette fois-ci être allé chercher du côté de Thierry Lhermitte ?
L'histoire raconte...
Hervé Edmar.
Les Témoins, c'est l'histoire de Sandra, une jeune femme flic qui va devoir faire équipe avec un vieux briscard de la PJ, une légende de la PJ qui revient aux affaires. Et je voulais reproduire ça avec le casting, c'est-à-dire prendre une comédienne inconnue à la télévision, qui va devoir faire équipe avec un comédien très connu à la télévision.
Un ex-ripoux.
Et en tout cas, un ex-bronzé. Ouais, il est bien pâle au Tréport. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi Thierry Lhermitte ? Thierry Lhermitte, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le voir dans ce genre de rôle.
Un petit peu quand même. Hein. Il a fait pas mal de flics, d'avocats, d'hommes politiques aussi.
Oui, notamment dans l'affaire, comme je dis, de Niclou.
Et Quai d'Orsay aussi.
Absolument. Et c'est dans un film de Niclou, une affaire privée que...
Que vous l'avez repéré.
Absolument.
Ah, bien sûr.
Enfin, que je le connaissais avant, mais que j'ai su qu'il pouvait également faire ce genre de rôle. Et Thierry Lhermitte dans Les Témoins, ça m'intéressait parce que... Évidemment, il arrive et il porte un mystère. Automatiquement, on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Malgré tout, même s'il a fait d'autres films, d'autres polars, on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Et donc, il porte un mystère. Il arrive et on se dit, c'est bizarre, il n'est pas comme d'habitude. Et ça m'intéresse.
Pour les autres séries, puisque vous parlez de casting qui est en rapport avec la fiction que vous travaillez, c'était à peu près la même chose pour Les Oubliés, par exemple, ou pour Samy Wajila avec Sandrine Bonner. Il y a une relation entre où ils en sont dans leur parcours de comédien et la façon dont vous avez d'imaginer une fiction.
Non, pas
c'était cette fois-ci.
Oui,
non, c'est cette fois-ci. Oui. Benoît, dernière question.
Oui, Pierre Bellemare, vous avez produit des jeux, vous avez produit le télé-shopping, mais la fiction, c'est quelque chose qui vous a intéressé, que vous auriez pu faire plus ?
J'ai beaucoup regretté à une époque de ne pas m'engager dans la direction de la comédie. Et je pense que j'aurais pris un grand plaisir à jouer la comédie. Bon, alors, avec des personnages qui pouvaient me convenir. Mais je crois que ça aurait été une vraie passion. Alors, on m'a donné que très peu d'occasions. La seule occasion vraiment où j'apparais au cinéma, c'est en jouant un con total.
Ouais, 717.
Voilà. Collabo et con, n'est-ce pas ? Ce qui est très dur. Et Dujardin m'a donné longtemps des leçons, parce que j'ai essayé d'y mettre quand même un peu quelque chose. Il me disait, non, rien, tu parles, tu es un con. Oui, d'accord.
Bon, alors ne le sauve pas.
Et finalement, ça n'a pas trop mal marché d'ailleurs. Ça m'a amusé de le faire. Mais bon, ce n'est pas très intéressant. Donc voilà.
Hervé Edmar, je voulais y réagir.
Oui, je me souviens juste de Pierre Bellemare. Vraiment, ça m'avait frappé à l'époque. C'est un plan fixe pendant un quart d'heure, 20 minutes, racontant une histoire et la force de l'histoire. Pas besoin d'autre chose que d'un verre d'eau, un visage, une voix.
Et c'est un tableau non figuratif derrière moi.
Exactement. Et une histoire, la force de l'histoire. Ça m'a frappé à l'époque. Voilà.
Le rendez-vous, la session.
Qui d'entre nous n'a pas rêvé un jour de savoir jouer du piano ?
Parce que vous n'aviez pas un professeur qui s'appelait Madame Rémémeil, comme moi. Benoît Lagan, session tout de suite.
Oui, on reste du côté de la maison et des histoires avec l'auteur, compositeur, interprète Bastien Lallemand pour une session maison haute ce soir. Alors, petit rappel, on a découvert Bastien Lallemand en 2003 avec son premier opus, Les Premiers Instants. Et depuis ce premier disque, deux autres ont suivi, Les Érotiques et Le Verger. Avant de s'arrêter quelques années pour développer un projet agréable de sieste acoustique qu'il poursuit d'ailleurs et qu'il a égrené un peu partout en France et à l'étranger. Une longue tournée de 5 ans donc, qui lui a permis de composer ici et là de nouvelles chansons qu'il édite aujourd'hui dans un quatrième album, donc Maison Haute, disponible sous le label Zamora Productions. Et pour se faire une idée de cet album, dans lequel ça va vous plaire, Pierre Bellemare, Hervé Edmar et Marc Épou, il est question de rondes de nuit, de vieil amour, d'ombre, mais aussi de scènes de crime loin de la côte. Et bien, Bastien Lallemand fait escale à la Maison de la Radio pour nous interpréter un extrait de cet album. En direct dans le studio 108 sur France Culture, il est à la guitare électrique et au chant et il est accompagné par Maëva Lebert au violoncelle. On écoute Ronde de nuit, c'est à vous.
Bientôt, nous ne serons plus que des ombres sur le chemin de ronde, sur le chemin. La nuit se lovera, enveloppera le monde sur le chemin de ronde, sur le chemin. Entends-tu,
entends-tu
la clameur de la ville qui s'éteint? Le soir aura péri, s'évaporera le monde sur le chemin de ronde, sur le chemin. Les astres qui rougiront ne remplaceront pas nos blondes sur le chemin de ronde, sur le chemin.
Nos amours,
leur clameur dans la ville au lointain. L'ennemi aura beau dire, nous sommes tous là dans la pénombre, sur nos chemins de ronde, dans le pétrin. Et nul ne peut s'enfuir qu'en s'enfonçant dans la pénombre, en quittant le chemin de ronde, en quittant le chemin. Entends-tu,
entends-tu
dans la plaine la ferraille de ce train? Le jour demain revient, qu'il nous révèle au monde, qu'il montre le chemin de ronde sous le crachin. Que tous voient à la ronde nos visages fatigués et sombres sur le chemin de ronde sous le crachin. Entends-tu,
entends-tu
la relève sous la pluie qui revient? Entends-tu,
entends-tu
la relève,
la relève
sous la pluie,
sous la pluie
qui revient? Thank you.
beaucoup.
C'était Bastien Lallemand à la guitare au chant, accompagné par Maëva Lebert au violoncelle en direct du studio 108. Alors notez que Bastien Lallemand et ses musiciens passeront quelque part non loin de chez vous au Théâtre de la Loge le 29 mars, au Théâtre de la Cité Internationale à Paris pour une série de spectacles du 9 au 14 avril, mais aussi à Bobigny le 2 avril, à Saint-Denis le 3 ou encore à Arlon en Belgique le 3 mai. Je rappelle que son dernier album La Maison Haute vient de paraître sous le label Zamora Productions et que Bastien Lallemand sera l'invité de Marie Richeux sur France Culture vendredi prochain dans l'émission Les Nouvelles Vagues entre 16h et 17h.
L'émission se termine, pas un faux plan, top, c'est fini. Bon, voilà, c'est l'instinct. Mais
ça a l'air un peu stupide comme ça, mais c'est la vérité.
Top, c'est fini.
Merci à nos invités. Pierre Bellemare, 50 ans de télévision, apparu aux éditions du Passeur en partenariat avec l'INA. Hervé Admar et Marc Herpoux, les témoins, ce sera sur France 2 à partir de mercredi prochain. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
Se lasta la ritorna puutilen ja itse vahus. Oli tunnen nagu ootaks ees kauneim suvi.
Kono kuninio aates soo arimasenkala.
Incompris, demain une émission cinéma japonais et estonien avec le réalisateur Marty Helde et l'historien Mathieu Capel. La des annonces, Elsa.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagan, Aïssatou Ndoye et Elsa Béranger. Journal de la culture Zoé Sfez, chronique Thomas Clair, à la prise de son Élise Leu et Dophar Guéride, et à la réalisation Thomas Beau. Vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours, la podcaster sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur Facebook et Twitter.
Il est 19h54, vous écoutez France Culture, c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée à tous.